dans l'intimité des arbres et des animaux. Né à Paris, un facétieux hasard m'a fait grandir juste en face des arbres du parc Montsouris. Ces géants immobiles me rassuraient déjà. S'ils ont l'air morts en hiver, ce n'est que pour mieux renaître. Dans mes plus beaux rêves, ils allongeaient leurs branches et me tendaient les bras pour que je m'échappe par la fenêtre. J'enviais les oiseaux. J'enviais surtout les chats qui traversent la rue, se glissent sous les grilles et passent d'un univers à l'autre dès la nuit tombée. De merveilleux passeurs qui osent transgresser les interdits qui nous enferment. Or, la liberté de naviguer entre deux mondes et de vivre la nuit m'a été offerte par mon métier de scientifique de terrain. Enfin, l'art m'a permis de donner forme à d'autres rêves. Caché au bout de son fil, qui anime la marionnette? Qui tisse la toile de nos rêves? J'ai été chercheuse au CNRS pendant 37 ans au laboratoire d'écologie du Muséum national d'histoire naturelle. J'étudiais des mammifères arboricoles, le plus souvent des nocturnes, les pangolins au Gabon, les petits lémuriens à Madagascar, le singe tamarin en Guyane. Dans les années 60, il n'y avait ni balises Argos, ni téléphone portable. Se repérer était problématique tant il est facile de se perdre dans les bois. Suivre un animal exigeait de ne jamais le quitter des yeux sous peine de perdre sa trace. J'aurais malheureusement déjà passé ma thèse de doctorat quand le radio-tracking ou radio-guidage viendra révolutionner le travail de terrain. Chaque année, j'ai vécu plusieurs mois immergé au cœur de la forêt tropicale. Une nature préservée dont la beauté et l'étrangeté se découvrent peu à peu. Un lieu de rencontres improbables qui remettent en question nos certitudes. Travailler de jour comme de nuit, crapahuter par tous les temps, dormir en hamac sans autre protection qu'une moustiquaire sont des expériences décisives. Au fil des nuits, se tisse une intimité avec la forêt, se met en place un tout autre rapport au monde. On renoue avec cette capacité d'émerveillement devant la vie qu'ont les jeunes enfants, et que le temps émousse. À la nuit tombée, la lampe frontale ouvre une coulée de lumière sous la voûte des grands arbres. Un sentier s'illumine au cœur de la sylve. L'éphémère jeu d'ombre et de lumière qui se déploie entre racines et canopées incite à pénétrer toujours plus loin. Instant magique, monde mystérieux qui s'ouvre à nous. Tous sens en alerte, plongés au cœur même de la vie, on croise des animaux qui ne connaissent pas l'homme, qui n'en ont pas peur. C'est ce quotidien singulier que je voudrais vous faire partager. Avant d'appréhender l'univers d'un animal, on doit d'abord se faire accepter. La présence humaine n'est jamais neutre. Observer, c'est établir un lien. Il faut être attentif à tout, discret et surtout le plus neutre possible. Dans le flux infini des sensations et des émotions qui nous traversent et nous affectent en continu, on doit retenir les informations scientifiques pertinentes et les noter selon un code précis. Un petit carnet recueillera de manière presque automatique ces précieuses données. C'est la routine du chercheur de terrain. Ce qui manquerait dans le temps et dans l'espace était l'animal à ne pas perdre de vue, les racines croche-pied, les branches qui fouettent le visage, le nid de guêpe caché sous les feuilles, un chablis impénétrable à contourner, une rivière à traverser en équilibre sur le tronc moussu d'un arbre mort, et surtout le précieux petit carnet à protéger des chutes dans l'eau et la boue. Rien d'autre n'existait, et j'aimais ça. Mais soudain, se découvrir comme l'objet du regard de l'animal qu'on observe n'était pas au programme. Se deviner dans l'œil d'une bête sauvage est une émotion d'une force incroyable. Qu'il s'agisse d'un grand singe ou d'un oiseau-mouche, cette curiosité réciproque bouleverse. Une vague d'empathie vous submerge, qui peut emporter très loin. Traverse le miroir de l'ombre. Malheureusement, notre culture a soudain étendu ses tentacules jusqu'au plus secret de la forêt. La sécurité est devenue une priorité. Nous voilà contraints de porter un talkie-walkie en permanence allumé. La voix humaine qui jaillit de l'appareil fait voler en éclats ce rapport presque fusionnel avec la nature. Cette vie où je me sentais à ma juste place n'était d'ailleurs qu'un prélude à des mois et des mois d'une immobilité forcée au laboratoire. Il faut nourrir l'ordinateur, des données recueillies, les comptabiliser, les transcrire dans des bases de données, les analyser. Un travail qui exige de longues heures le nez sur l'écran, pour des conclusions en forme de statistiques. Des résultats où le quantitatif l'emporte sur le qualitatif. Plus rien à voir avec la magie de la vie. Chiffres, histogrammes, diagrammes, voilà tout ce qui reste des heures vécues dans cette formidable jungle vivante. Les petits carnets de terrain qui ballottaient autour de mon cou sont vidés de leur contenu. Leurs pages maculées de traces de boue, de gouttes de pluie et de griffures de toutes couleurs sont autant de souvenirs qui ne comptent pas. Une frustration qui s'accroît à chaque retour. Jour et nuit s'effacent, de rares instants flamboient, mémoire gruyère. Cette insatisfaction croissante va faire craquer mes défenses et libérer l'artiste qui sommeillait en moi. Des portes dérobées vont s'ouvrir pour me faire vivre d'autres aventures. D'abord la sculpture, puis l'écriture. Modeler dans la glaise des êtres vivants est une expérience sensible, que ce soit des animaux ou des êtres humains, peu importe. C'est un pas timide vers le mystère de la vie. Quand ma main courbe l'aileron d'une tarée qui plonge, ou le bras d'une femme qui lit, ce n'est plus de la terre que j'ai sous les doigts. Pas question de leur déboîter l'épaule pour obtenir l'effet souhaité. Sculpter le bois offre d'autres émotions. Ce que l'arbre vivant a traversé demeure inscrit dans la matière. Et si j'ai choisi un bois pour ses caractéristiques visibles, le travail va révéler des traces cachées, parfois plus intéressantes. Ces découvertes inattendues vont me conduire là où je n'avais pas prévu d'aller. Un dialogue s'installe. L'histoire de l'arbre et la mienne s'entrelacent. Un stage avec une amie conteuse va ensuite ouvrir les vannes de l'écriture. Nous devons conter une rencontre insolite en forêt. Et j'avais prévu de parler d'un éléphant. Mais voilà qu'un colibri s'impose. Une expérience intime jamais racontée, mais qui exige d'être partagée. L'écoute du groupe me galvanise. Je plonge dans un passé vieux de 15 ans et découvre qu'il est intact. Le soir venu, j'écris les premières phrases sans allumer la lumière pour ne pas rompre le fil du temps ainsi renoué. S'ouvrent alors plusieurs mois d'écriture. Écrire. Traquer l'oubli. D'abord relire les lettres écrites à vif sous le couvert des grands arbres. Puis plonger dans le labyrinthe d'une mémoire sans cesse reconstruite. Attendre qu'un fragment fasse surface et le poser tout frétillant sur le papier. Une enveloppe déchirée se trouvant là par hasard, ou un papier posé là tout exprès sur la table de nuit vont recueillir ces bribes de souvenirs arrachés à l'oubli. Peaufiner ce palimpseste pour qu'un peu de vie sauvage donne corps aux mots. Les faire voyager de bouche à oreille et raconter tout ce que ces petits carnets ont traversé. Équilibriste, marcher sur le fil du temps. Forêt labyrinthe, dédale sans minotaure avec son fil d'Ariane, le topophile. Ariane est mon second prénom, pour si tu veux faire un jour du théâtre, avait dit ma mère. Un fil de plusieurs kilomètres de long, auquel nous avons recours quand il n'y a aucun repère. Ni route, ni rivière, ni sentier, ni layon. Il balise le chemin de retour de manière éphémère, car il est dangereux pour les animaux. En revenant des terrasses de l'Inselberg, après cette rencontre avec un colibri, j'ai donc soigneusement rembobiné le fil. La forêt a effacé toute trace de mon passage, mais ce fil qui a glissé deux fois dans ma main a laissé son empreinte en ma mémoire. En parlant, je le sentais filer au creux de ma paume, voyais ses festons légers, revivait leurs rencontres et émotions. Je voudrais qu'au fil des mots, des cris de singes et des chants d'oiseaux, chacun ressente ce que la forêt offre quand on y pénètre armé de notre seule curiosité. Quand on est prêt à saisir la chance d'être là pour y vivre des instants de paix et de découverte. Tout ce qui peut aider à mieux connaître les milieux naturels et les animaux sauvages est précieux. Il faut connaître et aimer pour respecter. Comme le colibri du conte amérindien, on peut faire ce qui est en notre pouvoir. Quelques gouttes d'eau ne peuvent rien contre la forêt incendiée. Mais l'absence d'espoir n'empêche pas de le faire. Voici une invitation au voyage. L'invitation à partager les rêves d'une petite fille passionnée de vie sauvage qui souhaite partager ses souvenirs et des questionnements. Après avoir traversé des forêts tropicales, s'y être perdue et retrouvée, elle rêve de l'accord perdu entre l'homme et la nature dont nous faisons partie. Jeune fille qui découvre l'Afrique pour consacrer 10 ans de sa vie au pangolin, à l'époque révolue qui ignorait tout de cet inoffensif mammifère à écailles. Lémuriens et singes l'ont menée à Madagascar, puis jusqu'en Amazonie. Enfin, l'art s'est imposé. Photographier et sculpter la terre et le bois. Monter des installations pour que revivent des objets obsolètes. Exposer pour partager désirs et connaissances acquises. Écrire pour revivre. Écrire pour conjurer l'oubli. Écrire pour explorer notre part sauvage. Écrire pour interroger les vents. Offrir des mots en partage. Tenter de comprendre, au fil des mots, ce qu'est la vie. Élise. La bouteille, la mer, le vent ou le message dedans? Mettre le temps en bouteille, rêver l'avenir. Didier Pagès.